marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
En ce qui concerne l'heure, je vais vous dire où nous en sommes.
Le budget de l'Europe.
Les gouvernements de l'UE se sont enfermés dans une mécanique diabolique qui consiste à confier sans cesse des missions et des compétences supplémentaires aux institutions européennes tout en proclamant qu'ils vont en geler, voire en réduire le budget. Car il s'agira de financer en vrac la lutte contre le chômage des jeunes, la réindustrialisation et l'innovation, la modernisation de l'agriculture, la cohésion territoriale, les réseaux et la transition énergétique et la numérisation. À cela s'ajoute la défense, la lutte contre le terrorisme, le contrôle des frontières extérieures, la gestion des flux migratoires et un plan Marshall pour l'Afrique, excusez du peu.
Chacun a reconnu le rythme de Quentin Dickinson. Il pourrait nous dire que le budget de l'Union européenne, c'est 1% du PIB de l'Union, le tiers du budget français. Il est encore consacré pour une large part à la première politique commune, la PAC. Née en 1962, elle était destinée à montrer que l'Europe existait et devenue l'objet de multiples critiques croisées, elle représente encore un gros tiers des dépenses. La politique de correction des inégalités régionales, qui s'est toujours présentée comme une politique d'investissement pour le futur, est née elle au fil des années 70 et 80. Les élargissements successifs ont modifié peu à peu ses lieux d'intervention. La part qui lui est consacrée est à peu près stable, le tiers là encore. Si elle était mieux ciblée, si la PAC, frappée d'obsolescence, disparaissait, d'autres priorités pourraient être dessinées, la transition écologique, la production de nouveaux biens d'avenir, la culture, etc. Mais il est difficile de quitter les sillons tracés. Qui plus est, l'habitude a été contractée de faire sans cesse la distinction entre pays bénéficiaires et pays contributeurs. Ceux-ci tirent le plus parti possible de leur supériorité pour défendre leurs propres choix quand ils ne se plaignent pas d'être dépouillés, comme le Royaume-Uni. Mais les explications du caractère bancal du budget européen sont à chercher ailleurs. La première PAC était financée par des transferts de budgets nationaux, votés par les parlements nationaux. Au moment de la construction du budget européen, le rôle décisif est toujours attribué au Conseil, qui représente les gouvernements. La Commission a seulement le pouvoir de proposer, puis d'exécuter. Le Parlement européen ne dispose pas de moyens qui soient comparables à ceux des parlements nationaux.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Sylvain Kahn, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Avec un autre géographe, Jacques Lévy, vous publiez Le pays des Européens aux éditions Odile Jacob. Et puis on se souvient, il y a quelques années, d'un livre sur l'histoire de la construction européenne. Alors, nos auditeurs vont se dire, ça va être technique. Un petit peu comme la fabrication de la baguette qui était évoquée il y a un instant, le croustillant du pain, tout ça. Non, on va faire une émission d'histoire politique parce que on a dépassionné les choses européennes, volontairement peut-être à Bruxelles, pour apaiser les résistances, les prétentions nationales les dirigeants de la Commission et leurs fonctionnaires et les représentants des intérêts nationaux à Bruxelles se présentent comme des techniciens. Il faut faire de l'histoire politique de l'Europe.
Il n'y a pas plus politique que le budget, Jean Lebrun, vous le savez bien.
Bah oui.
Et vos auditeurs aussi. On se souvient tous, enfin non pas qu'on l'ait vécu, on était plus là, c'était il y a plusieurs siècles, du fameux slogan « No taxation without representation » qui est le motto qui est à la base de la parlementarisation des vies politiques. Inventé donc par les Britanniques, ou pardon, par les Anglais. À l'époque, c'était les Anglais. Donc en effet, le budget, vous avez tout à fait raison, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre à la fois pour savoir qu'est-ce qu'on va financer, quelle clientèle, entre guillemets, entre trois paires de guillemets bien entendu, on va privilégier, et surtout qui va prendre les décisions pour savoir à qui ça va bénéficier.
Traité de Rome 57, il y a juste à l'issue du traité de Rome une assemblée parlementaire qui est composée de membres désignés parmi les enceintes parlementaires des six. Il y a un conseil des ministres, auquel les Français par exemple tiennent à ce qu'ils gardent un rôle déterminant, et puis une commission dont le premier président est un Allemand, plutôt choisi par Adenauer, qui s'appelle Walter Hallstein.
Oui,
petit portrait, parce que c'est un président important.
Président important, puisqu'il est le premier président de la Commission européenne. Il l'a été pendant 10 ans, donc de 1957 à 1967, avant d'être... on peut dire, congédié par le veto et la foudre gaulienne, puisque...
On va parler de la crise.
Le général de Gaulle
a déclenché,
en avait fait son meilleur ennemi à Bruxelles et en Europe. Et Walter Hallstein est un juriste. Il est même considéré comme un grand juriste. Il était donc déjà juriste dans les années 20, dans les années 30, hein, donc y compris pendant la période nazie, qui n'était facile pour aucun universitaire. On va dire qu'il passe entre toutes les gouttes et il se retrouve secrétaire d'État aux affaires européennes des différents gouvernements de Monsieur Konrad Adenauer, qui avait lui-même en direct, en plus du fait d'être chancelier, le poste de ministre des Affaires étrangères. Et donc au moment où le traité de Rome arrive enfin à signature et Adenauer en a été l'une des plumes, on va dire ça comme ça, eh bien Adenauer effectivement propose que Hallstein soit le premier président de la Commission européenne.
Mais et De Gaulle, au début, il apprécie positivement Hallstein, parce que Hallstein s'attache à créer comme première politique commune une politique agricole. Et comme dit le ministre de l'Agriculture du Général, Edgar Pisani, la France étant un microcosme de l'Europe, toutes les questions agricoles qu'on rencontre dans le continent, que ce soit celles de l'agriculteur de montagne, de l'agriculture céréalière de plaine ou de l'élevage du bocage, ça se rencontre en France et ça nous concerne.
Oui, et puis il faut pas oublier les marais salants et l'agriculture littorale, Jean Lebrun. Donc effectivement, oui, et c'est vrai que Hallstein, finalement, joue ce rôle à la perfection s'agissant de la politique agricole commune. Juste un tout petit mot pour se rappeler qu'au moment où le général de Gaulle, Charles de Gaulle arrive au pouvoir, revient au pouvoir en France, tout le monde se demande, alors tout le monde, hein, je crois que vous l'avez dit Jean Lebrun, à ce moment-là c'est l'Europe, c'est six États, hein, donc les cinq autres, hein, donc les trois pays du Benelux plus l'Italie plus l'Allemagne, se demandent si le retour du général de Gaulle ne va pas tout de suite d'emblée signifier la fin de la communauté économique européenne. Un an après qu'elle ait été jetée sur les fronts baptismaux. Et justement, Hallstein dit, ben non, on va faire la politique agricole commune. Et à ce moment-là, le président de la nouvelle Ve République dit, dans ces cas-là, nous avons un accord. Et figurez-vous que Adenauer et Hallstein ont dû l'imposer, cette politique agricole commune, à celui qu'on appelle le père du miracle économique allemand, monsieur Ludwig Erhard, le grand ministre de l'économie.
Grand
pour son œuvre, gros pour sa corpulence et qui fumait des barreaux de chaise, qui a fini par succéder à Adenauer en 1963 et qui lui ne voulait pas tellement de cette PAC qui était considérée, les Britanniques le pensaient déjà et même s'il n'était pas encore dans l'Europe, comme une véritable usine à gaz. Vous savez que Tony Judd, le grand historien britannique de l'Europe, hein, a fait dans sa magistrale histoire de l'après-guerre européen une petite note de bas de page, très très drôle, dans laquelle il compare la politique agricole commune à la politique agricole soviétique du temps de Brejnev.
Pisani dit, je ne sais pas si c'est une politique agricole, c'est une politique agricole destinée à montrer que l'Europe existe. Parce que Hallstein, en 1965, va faire des propositions quant au financement, à la conduite de la politique agricole commune. Et puis derrière, il a d'autres perspectives qui vont dérouter Paris. Qu'est-ce que c'est, ces propositions?
Alors là, Jean Lebrun, vous parlez de quelque chose que beaucoup de nos auditeurs, dont beaucoup de nos auditeurs se rappellent forcément. C'est ce qu'on appelait la crise de la chaise vide. Comment en arrive-t-on là? Monsieur Hallstein, d'abord, finissait par énerver De Gaulle et pas mal de monde en France, en tout cas parmi les gaullistes, parce que il pensait qu'il avait rang de chef d'État. D'accord? Il recevait même les ambassadeurs des autres pays du monde en les accueillant sur un tapis rouge. Et déjà, de ce point de vue-là, il agaçait les gaullistes. Et puis, il fallait, c'est l'histoire de budget, il fallait se mettre d'accord sur, on va dire, la prorogation du règlement financier, c'est-à-dire en gros quel budget on allait avoir pour les années 1965-1970 et en particulier quel budget pour l'agriculture. Sur le principe, tout le monde était d'accord, la PAC n'était pas remis en cause, simplement il fallait savoir combien on allait dépenser chaque année pour la PAC pendant ces cinq années et de manière préférentielle pour quel type de production.
Et donc il fait
une proposition au mois de mars.
Des ressources propres serait affecté à la PAC.
Il propose qu'il y ait des ressources propres, c'est-à-dire que la Commission puisse gérer en direct des recettes qui ne passeraient plus par les États. Ce serait des droits de douane. Et surtout, il fait cette proposition devant l'Assemblée parlementaire européenne sans en avoir au préalable informé les États et les ministres du Conseil.
La crise va se déclencher assez vite. À l'époque, il y avait des chroniqueurs dans toutes les radios qui rendaient longuement compte des affaires européennes en insistant sur le stress, la tension, les horloges qu'il allait peut-être falloir arrêter parce que les négociations dureraient bien au-delà de minuit. Notre collègue Levatte sur Radio Luxembourg.
Il n'y a pas une heure, un délégué français m'a déclaré, tous les éléments d'un accord existent, il suffit de les réunir, mais la question est, veut-on un accord ? Voilà la température de la fameuse salle Europe du Palais des Congrès, et vous voyez tout de suite qu'elle se situe à plusieurs degrés au-dessous de celle qui règne à l'extérieur.
Se pourrait-il qu'il n'y ait pas d'accord signé cette nuit ?
Ça peut aussi, c'est une éventualité qu'il ne faut pas écarter, parce qu'il y a deux positions fondamentalement opposées. Les Français disent « nous sommes ici pour obtenir un accord financier inconditionnel ». De leur côté, les Italiens disent « il est impossible de s'engager aujourd'hui sur ce qui va se passer quand tous les produits agricoles auront des prix européens et quand ils pourront circuler librement dans toute l'Europe ». Ajoutez à cela les conditions politiques mises par les Hollandais à tout accord, la volonté des Allemands d'accélérer le marché commun industriel, pas l'agricole, la gêne des Belges qui sont toujours sans gouvernement, et vous comprendrez que la situation est loin d'être claire.
Et elle va même se tendre, et pendant 6 mois, vous avez prononcé les deux mots fatidiques, chaise vide, Sylvain Kahn, les Français ne siégeront pas en pleine campagne de la première présidentielle au suffrage universel. Le ministre des Affaires étrangères, Couve de Murville, dit qu'au fond, dans une négociation, l'important c'est de triompher et pas d'arriver à un accord. Quant au Premier ministre, Georges Pompidou.
Le 30 juin dernier, on a tout remis en question. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous ne pouvions que constater l'échec. Le bon sens nous avertit et l'expérience nous prouve que nous ne pouvons pas laisser à une commission sans vocation politique le soin de décider du niveau de vie des Français, du destin de notre industrie et du destin de notre agriculture. Ce n'est pas, croyez-le, que nous voulions empêcher l'Europe de se faire.
Une commission, hashtag, sans vocation politique, le général de Gaulle dira, une espèce de fiction politique. Alors qu'au bout de 6 mois, ça va se résoudre ? Et comment ? Et avec quelles conséquences ?
En tout cas, ce qui est formidable, c'est d'entendre le Premier ministre de la France dire que la commission a le pouvoir de décider du destin de notre industrie, de notre agriculture et du niveau de vie des Français. On n'a jamais entendu un gouvernement français prêter autant de pouvoir à la Commission européenne de manière erronée. On voit bien que Georges Pompidou fait de la politique. Comment ça se résout ? Ça se résout par le fait que pour que les Français siègent à nouveau à Bruxelles dans les différentes négociations, eh bien qu'obtient le gouvernement, Pompidou et De Gaulle, ils obtiennent qu'on ne passe pas la prise de décision entre États à la majorité qualifiée, car c'est ce qui devait arriver. Donc, c'est ce qu'avait prévu le traité de Rome. Le reste du traité de Rome, d'ailleurs, se déroule comme prévu, c'est-à-dire le fameux marché commun, avec la fin des droits de douane, des barrières tarifaires, comme on dit, arrive même à rentre en vigueur dès l'année 1968, c'est-à-dire 1 an et demi avant ce qui était prévu. La PAC, elle se met en place, tout se met en place, sauf la manière de prendre les décisions, et là, la France obtient, c'est ce qu'on a appelé l'arrangement de Luxembourg, qui n'est même pas un compromis, parce qu'en fait, personne n'est vraiment d'accord, mais on se dit qu'il faut bien continuer. Et la France obtient la possibilité pour n'importe quel État de maintenir son droit de veto si un jour il y avait des décisions à prendre pour lesquelles il aurait l'impression que ses intérêts vitaux seraient menacés.
Dans l'histoire de la construction européenne, je reprends le titre de votre livre, ce moment de 65 est extrêmement important. La Commission va voir Hallstein ne pas être reconduit à sa tête et puis pendant une vingtaine d'années va jouer un rôle beaucoup moins important que celui que dont rêvait pour elle son premier président. Un autre moment maintenant, un autre président de commission, ça va être le président Delors, qui n'a pas vraiment été choisi d'ailleurs par la France, non, c'était plutôt le candidat de Thatcher et de Kohl de l'Allemagne. Hein.
Mais François Mitterrand était entièrement d'accord parce qu'il n'en pouvait plus du chantage à la démission permanente de Jacques Delors qui se roulait par terre tous les 3 mois.
Vous parlez de,
disait-on,
chantage à la démission de son poste
de ministre de l'économie et des finances,
disait-on. Finances. Alors, nouvelle relance de la politique budgétaire. Chacun sait que c'est en 87, pendant le triple mandat de Jacques Delors, que la politique d'Erasmus a été lancée.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le budget européen, on l'entendait, un extrait du film L'Auberge espagnole, bien évidemment, avec Sylvain Kahn qui est publié en compagnie de Jacques Lévy, Au pays des Européens, c'est aux éditions Odile Jacob. Alors Jacques Delors est donc nommé président de la Commission européenne. Il n'y a pas de changement dans le fonctionnement. Voici, par rapport à l'époque de 1965 qu'on décrivait, le Parlement européen est maintenant élu au suffrage universel et a un peu plus de pouvoir budgétaire.
Oui, il a un peu plus de pouvoir budgétaire depuis un traité, disons, assez technique qui a été ratifié dans les années 1970. Et on peut en profiter juste pour dire, Jean Lebrun, que c'est vraiment un fil rouge de l'histoire de l'Union européenne que l'accroissement continu, régulier, des pouvoirs du Parlement européen jusqu'à aujourd'hui.
Par contre, le budget maximum, il est fixé à 1,24, jamais on y reviendra.
1,24% du PIB communautaire.
Jacques Delors décide dans cette enveloppe de rationaliser les usages et il va inventer une programmation pluriannuelle afin d'éviter les guérillas budgétaires à chaque saison.
Oui, guérillas budgétaires dans lesquelles s'était particulièrement illustrée Madame Thatcher, arrivée au pouvoir en 79, et qui, au moment où Jacques Delors est désigné président de la Commission européenne, est toujours là, puisqu'elle va rester là jusqu'en 1990, si je ne m'abuse. Et alors, attention, hein, vous avez raison de dire Jacques Delors décide, mais en même temps, nous sommes en Europe, nous ne sommes pas dans la France de la Ve République. Donc le président de la Commission ne décide rien seul. Le président de la Commission, avec son collège de commissaires, propose aux États, le Conseil, et au Parlement européen, dont les pouvoirs commencent à augmenter. Et donc, en tous les cas, il propose en effet qu'il y ait une augmentation sensible de certaines dépenses du budget communautaire, notamment la fameuse politique dite de cohésion qu'on a l'habitude, pour que ça soit clair pour tout le monde, d'appeler politique régionale.
Alors cette politique régionale, elle avait été mise au point dès les années 1970, d'ailleurs pour faire plaisir à la Grande-Bretagne, parce qu'il s'agissait de soutenir des régions qui connaissaient, après avoir vécu la première révolution industrielle, des crises, l'élargissement aux pays méditerranéens, en même temps qu'à l'Irlande et au Royaume-Uni, offre des possibilités de compensation des inégalités régionales. Enfin, ça, c'est une lecture qu'on pourrait contester, parce qu'on peut faire aussi une autre interprétation du choix de mettre l'accent sur les politiques régionales. C'est pour créer des investissements pour le futur.
Tout à fait. Et c'est pour créer des investissements pour le futur, en même temps qu'il s'agit effectivement de permettre aux régions qui sont relativement moins développées ou moins prospères de le devenir davantage. Ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on parle de politique régionale ou de politique de cohésion. Mais vous voyez, je crois que ce qui est intéressant de rappeler à cet instant-là, c'est que ce ne sont pas des politiques de subvention. C'est pas uniquement de la redistribution, car le principe du budget communautaire et de la politique régionale en particulier, c'est que pour un euro qui est accordé par la Commission dans le cadre d'un appel à projet, ça tombe pas du ciel, il faut mettre en face des projets qui peuvent être des projets proposés par des personnes morales, des régions, des entreprises, des acteurs, des associations. Eh bien, pour obtenir un euro, à l'époque c'était pas des euros comme vous savez, c'était des écus de la Commission, il faut mettre en face soi-même une ressource d'un euro. Et ça c'est très important parce que ça montre quelque chose de l'état d'esprit européen et ça a été très très bien expliqué par un politiste qui s'appelle Nicolas Jabko qui a écrit un petit livre formidable dans les années 2000 qui s'appelle « L'Europe par le marché ».
Oui, mais si on voit comment l'application se fait, non pas sur le terrain, où parfois le cofinancement va manquer, mais dans les bureaux de Bruxelles. Écoutons un témoignage important aussi qu'on trouve sur le centre virtuel de la construction européenne, un site basé à Luxembourg. C'est un témoignage d'un luxembourgeois, justement, d'un haut fonctionnaire luxembourgeois qui travaille à Bruxelles. Il s'appelle Jean-Jacques Cassel.
Je n'ai pas un de mes meilleurs souvenirs, les paquets de l'or 1 et 2, parce que je crois que là, l'Europe s'est montrée, singulièrement un certain nombre d'États membres, pas nécessairement sous leurs meilleurs jours. Je songe en particulier à l'Espagne. Felipe González faisait un foin, et jusqu'au chantage, jusqu'aux pleurs, pour obtenir de Jacques Delors le meilleur traitement possible pour son pays. Et dès lors qu'il y avait difficulté, puisqu'il y avait une enveloppe à louer par État membre et par projet, il appelait à la rescousse un Helmut Kohl, qui alors se faisait l'intermédiaire entre Delors et Felipe González, tant il est vrai que Kohl, le père de l'Europe, qui disait « je suis le payeur puisque j'assume moi, à moi tout seul 29% de la dépense communautaire ». Donc l'Espagne a beaucoup engrangé. Ceux qui ont beaucoup engrangé aussi, c'est l'Irlande, mais ils se sont comportés de manière très modérée. Un autre pays qui savait mettre le paquet aussi, et surtout sa ligne d'arrivée, c'est l'Italie. Et enfin, la Grèce. Donc les vrais bénéficiaires de la politique régionale. Les autres États membres estimaient qu'eux aussi avaient droit à. Nos amis belges, l'air de rien, n'est-ce pas? C'est pas là pour l'ambiance générale, donc un marchandage.
Les Belges, le Hainaut de M. Hélio des Roupeaux, très puissant à l'époque. Marchandage dans un labyrinthe. Là, je me fais l'intermédiaire de l'opinion publique courante.
Oui, oui, effectivement. Alors, et ce marchandage aboutit à des, comment dire, à des décisions qui sont assez subtiles et assez fines parce que il est, selon un mode de calcul géographico-territorialo-spatial.
Comment vous avez dit ?
Géographico-territorialo-spatial. Tout à fait possible pour n'importe quel pays ou n'importe quelle région de dire, attention, regardez, moi par exemple, je suis l'Île-de-France, en effet, je suis la région la plus riche d'un des pays les plus riches, mais vous voyez, j'ai quand même quelques cantons, hein.
Bah oui, des zones sensibles.
Des zones sensibles, des zones désindustrialisées, des zones où le chômage est important, des zones où l'éducation prioritaire est très importante.
Donc il y a de l'argent qui est allé à l'Île-de-France.
Eh oui, bien sûr, il y a de l'argent qui est allé à l'Île-de-France. Donc ce marchandage qui est évoqué par Monsieur Cassel, et j'en profite pour dire que le CVCE est une ressource formidable, en accès libre sur Internet, tout le monde peut y aller, cvce.lu. Eh bien, les marchandages évoqués par Monsieur Cassel avaient, comment dire, une dynamique véritablement heuristique, c'est-à-dire que tout le monde finissait par s'y retrouver et obtenir quelque chose dans le cadre, encore une fois, d'un objectif politique partagé qui était de pouvoir contribuer, si vous voulez, à la solidarité, au rattrapage des régions faibles.
Tout le monde devait le savoir, puisque la labellisation de chacun des projets devait avoir lieu sur place. Je me souviens d'un chemin de montagne dans une vallée que je connais bien, inaccessible, on ne peut y aller qu'à pied, mais la bergerie était marquée du label, et d'ailleurs un représentant de l'Union Européenne s'était déplacé jusque là-haut pour vérifier que les choses avaient été bien faites.
Et oui, dans l'Union Européenne, on aime bien la randonnée.
Ouais. On aime bien aussi calculer, un mot quand même, parce que ça doit provoquer chez vous une certaine irritation, de la classification qui est toujours faite entre pays contributeurs nets. On entendait Jean-Jacques Cassel dire que en 1990, au temps de Jacques Delors, l'Allemagne était contributrice nette pour 29%. Et les bénéficiaires. Alors, il y a quoi? Une dizaine de contributeurs nets, les autres, ce sont des bénéficiaires. Est-ce qu'il faut calculer d'ailleurs sans cesse comme ça?
Alors, vous savez, j'ai un collègue et néanmoins ami économiste qui s'appelle Jacques Lecacheux de l'université de Pau, qui a eu cette formule formidable, il a parlé du poison du juste retour. Ça veut dire qu'un jour, Madame Thatcher est arrivée au pouvoir en 1979, lors du premier Conseil européen. Conseil européen, ça veut dire sommet des chefs d'État et de gouvernement européens auquel elle participait, c'était à Dublin, fin novembre 1979, et là elle a eu cette phrase qui a été résumée de manière un peu hâtive, mais néanmoins vraie, elle a dit « I want my money back ». C'est-à-dire qu'elle a dit « écoutez, il n'y a pas de raison que le montant des dépenses que fait l'Union européenne et qui aide le Royaume-Uni ne soit pas égal ou supérieur au montant de l'argent que le Royaume-Uni donne à l'UE.
Et c'est resté dans les mémoires britanniques, puisqu'au moment de la campagne du Brexit, voici ce que disait Boris Johnson.
On June the 23rd, we all face a historic choice.
Nous sommes face à un choix historique.
To remain locked in a European Union. Ruled by an unelected elite.
Resterons-nous enfermés dans une Union européenne dirigée par une élite non élue?
Frankly indifferent to the suffering that their policies are causing.
Et indifférente à la souffrance que provoquent ces politiques?
Or to take back control. Take back control of huge sums of money, £350 million
a week. Ou bien allons-nous reprendre le contrôle de notre argent, 350 millions de livres par semaine,
and spend it on our priorities,
que nous pourrions consacrer à nos priorités, par exemple, notre système de santé.
Alors attention, évidemment, à ce que vient de dire Monsieur Johnson, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères, je crois bien.
Il était leader de la campagne du Leave.
Il a été récompensé par Madame May, excusez-moi. Évidemment, présenté comme ça, ça a l'air très simple et très beau et très bien, sauf que ça ne l'est pas, comme le montrent les difficultés du Brexit. Et surtout, deuxièmement, c'est une vision. On pourrait dire, c'est même pas qu'elle est boutiquière, c'est qu'elle est très très simplificatrice, parce que des pays contribuent davantage au budget de l'Europe et qu'ils, entre guillemets, versent davantage à ce budget, qu'ils ne reçoivent de ce budget. D'abord, vous l'avez rappelé, Jean Lebrun, tout à l'heure, ce budget européen porte sur des montants tellement modestes, 1% du PNB communautaire, un tiers seulement du budget de la France, alors que l'UE, c'est 500 millions d'habitants et 28 pays. Ça n'a pas grand sens, en réalité, de comparer à ce que mon pays reçoit autant que ce qu'il verse. C'est des petits montants. Alors qu'il faut bien avoir à l'esprit que chaque dépense faite dans le cadre du budget européen, ce sont des dépenses leviers. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les budgets nationaux, en général, dépensent beaucoup de fonctionnement. Que n'entend-on parler, y compris dans cette campagne pour les élections européennes, par certains partis, du fait qu'il y aurait trop de fonctionnaires, tandis que d'autres disent qu'il n'y en a pas assez. L'Europe ne finance aucun fonctionnaire. Elle ne finance que des actions, que de l'investissement. Donc même un pays qui, comme le Royaume-Uni, est un contributeur net, c'est-à-dire qu'il paye davantage qu'il ne reçoit, néanmoins, quand il reçoit de l'argent, ça fait beaucoup d'effets. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut entendre, néanmoins, que on peut réorienter ce budget de manière plus conforme aux priorités d'avenir dont vous parliez tout à l'heure. La recherche, l'innovation, la transition énergétique, l'agriculture bio, les circuits courts.
La culture, dirait François-Xavier Bellamy.
Et l'agriculture de niche contre l'agriculture de denrées, par exemple.
Mais ça suppose de laisser aller la PAC vers sa fin et puis peut-être de mieux cibler les fonds de cohésion. Votre livre avec Jacques Lévy, Sylvain Kahn est publié aux éditions Odile Jacob. Et puis, votre histoire de la construction européenne, c'était il y a quelques années au PUF. L'émission était réalisée par Valérie Aestaraï, avec à la technique Ludovic Asselot, Frédéric Martin, Franck Olivard et Ninka Negudesco pour la préparation. Chez vous, Mathieu.
Oui, Jean, bonjour. Dans la tête au carré, le 20 juillet 1969, vous vous en souvenez, Jean, peut-être?
Eh oui, j'étais dans la même montagne que je citais tout à l'heure, dans un endroit où il n'y avait pas l'électricité, on s'éclairait à la bougie pour écouter un transistor.
Et le premier pas sur la Lune, c'est le dossier de l'émission dans un instant.